journal, Elia Bergel.
Bonsoir à tous. Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, est mort aujourd'hui à 80 ans. Retour dans un instant sur les grands dossiers de sa carrière en direct depuis Washington. Comment Kofi Annan s'est-il imposé à l'ONU? Quel bilan tirer de son action? Avec nous pour en parler, Yves Doutriau, le représentant adjoint de la France aux Nations Unies de 1998 à 2002. L'Italie a rendu hommage aujourd'hui aux victimes de l'effondrement du pont Morandi. À Gênes, des obsèques nationales se sont tenues. Retour sur cette journée de deuil avec Sandrine Etoa. Angela Merkel reçoit ce soir le président russe Vladimir Poutine. Il sera surtout question de la Syrie et de l'Ukraine. Les négociations se poursuivent entre Israël et le Hamas. Après les récentes hostilités entre Gaza et Israël, les deux parties souhaitent s'accorder sur une trêve, nous dira Marine Vlaovic. L'été 2018 a été le plus chaud en France depuis 2003. Des températures records partout dans le monde, imputables au réchauffement climatique. Nous y reviendrons à la fin de cette édition. Kofi Annan est mort aujourd'hui, prix Nobel de la paix en 2001, secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006. Le diplomate a été confronté à une époque très troublée. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Washington et parmi les grands dossiers que Kofi Annan a gérés, il y a eu évidemment le conflit en Irak.
Oui, bien sûr, la guerre en Irak, mais aussi l'épidémie de sida, particulièrement en Afrique. Ça a été deux dossiers brûlants sur le bureau de Kofi Annan pendant ses presque 10 années à la tête de l'Organisation des Nations Unies. À propos de l'Irak, il disait que c'était l'un de ses grands regrets de ne pas avoir pu empêcher cette guerre déclenchée par les Américains. Il avait aussi été considérablement marqué par un attentat à Bagdad en 2003 contre les équipes des Nations Unies et marqué aussi par le scandale pétrole contre nourriture. Vous savez, ce programme qui autorisait les Irakiens à vendre du pétrole brut contre la distribution de vivres. Le fils de Kofi Annan avait été soupçonné de conflit d'intérêts et en 2004, le secrétaire général avait fait l'objet d'une campagne contre lui. Les deux mandats de Kofi Annan à la tête de l'ONU auront aussi été placés sous le sceau de la situation au Darfour et au Soudan par une volonté de sa part de réformer les Nations Unies et notamment de réformer sa très lourde bureaucratie avec une volonté, disait-il, de placer l'humain au centre de chacune de nos actions. Quand il quitte les Nations Unies fin 2006, son discours d'adieu reste dans les mémoires. Il appelle notamment les États-Unis à poursuivre la voie du multilatéralisme. Vous voyez que 12 ans après, on est sur une tendance tout autre. Et il reprend les mots du président américain Harry Truman. La responsabilité des grandes nations, c'est de servir et non pas de dominer les peuples du monde. Après son mandat, les Nations Unies lui donnent encore des missions. En 2012, par exemple, il est nommé émissaire des Nations Unies et de la Ligue arabe pour tenter de trouver une solution à la crise en Syrie. Malheureusement, cette mission de la paix, on le sait, a été un échec.
Merci Grégory Phillips en direct de Washington pour ces précisions. On retrouve maintenant Yves Doutriau. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous avez connu Kofi Annan puisque vous étiez le représentant adjoint de la France à l'ONU de 1998 à 2002. Alors Yves Doutriau, est-ce qu'il existe une doctrine Annan en termes de relations internationales?
Bah, pour moi, en tant que témoin pendant ces 4 années, la doctrine Annan, c'est la consultation sans cesse avec les membres permanents, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, mais avec toutes les parties prenantes. C'est toujours la recherche du consensus. C'est un homme qui était très très à l'écoute. On le qualifiait souvent déjà à l'époque de sage africain. Vous savez qu'en Afrique, l'art de la palabre, c'est important. Et donc écouter, parler pour trouver des solutions aux crises. Et Dieu sait si pendant cette période, les crises ont été nombreuses.
Et quelles ont été les réussites de Kofi Annan à la tête de l'ONU?
Quand j'y étais, il y a eu la préparation de l'indépendance de Timor. Il y a eu la gestion du Kosovo sous l'égide des Nations Unies après la guerre conduite par l'OTAN en 1999. Il y a eu la crise en Sierra Leone, donc en Afrique occidentale, pays voisin du Ghana, dont Kofi Annan est originaire, dans lequel il s'est beaucoup impliqué en faisant envoyer des casques bleus. Il y a eu aussi le retour des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, après la question de génocide au Rwanda, dans l'est du Congo, l'envoi à nouveau de casques bleus. Donc énormément de dossiers en termes de maintien de la paix. Et à chaque fois, lui, l'Africain, mais pas seulement, j'ai parlé du Kosovo et de Timor, plaidait pour le maintien de la paix par l'envoi de casques bleus, par le soutien des grandes puissances à ces efforts de maintien de la paix et par la concertation avec toutes les puissances régionales dans les zones de conflit.
Et après l'ONU, quelle a été l'implication de Kofi Annan sur la scène internationale?
Il est resté très impliqué. Votre correspondant à Washington le rappelait sur la Syrie, mais aussi, sans d'ailleurs beaucoup de succès malheureusement, au début de la guerre civile en Syrie, mais aussi au Kenya. On lui a demandé de réconcilier les partis kenyanes après une élection entourée de grandes violences. Il a créé une fondation, Kofi Annan, et puis il a dirigé aussi un groupe des sages, qui portait d'ailleurs son nom, pour la réforme de l'ONU, en particulier la réforme du Conseil de sécurité, de faire en sorte que le Conseil de sécurité soit mieux représentatif du monde multipolaire où nous sommes aujourd'hui, puisque le monde a beaucoup changé.
Et d'après vous, qu'est-ce qu'on retiendra de l'action de Kofi Annan?
Je crois qu'on retiendra son combat inlassable pour la paix, hein, honoré par le prix Nobel de la paix en 2001 à Oslo. J'avais le privilège de l'y accompagner. Cette action inlassable pour la paix, en dépit des difficultés parfois rencontrées des grandes puissances, notamment les États-Unis de Bush. La deuxième partie de son mandat, donc après 2003, après l'invasion américaine de l'Irak, a été beaucoup plus compliquée et pénible pour lui, parce qu'il s'est très souvent trouvé en opposition avec les États-Unis. Et c'est des pays comme la France qui l'ont beaucoup soutenu, en fait.
Merci. Merci beaucoup, Yves Doutriot. Je rappelle que vous avez été le représentant adjoint de la France à l'ONU de 1998 à 2002. L'Italie a rendu un dernier hommage aux victimes de l'effondrement du pont Morandi à Gênes. Une cérémonie était organisée ce matin en présence de hauts responsables de l'État italien, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini et le ministre du Travail Luigi Di Maio. Les deux hommes forts du gouvernement populiste ont été applaudis à leur arrivée, mais une grande partie des familles des victimes a boycotté la cérémonie. Les secouristes étaient également présents ce matin aux funérailles. Sur place, le reportage de Sandrine Etoa.
Des applaudissements et des larmes ont rythmé ces funérailles nationales lors de l'arrivée des centaines de secouristes, ovationnés pendant plusieurs minutes par des milliers de personnes pour leur travail extraordinaire accompli depuis mardi. Des applaudissements et des larmes pendant l'homélie de Monseigneur Bagnasco qui insistait sur le sentiment d'appartenance à cette ville de Gênes, ville meurtrie. Elle ne se rend pas, elle continuera à lutter comme elle l'a toujours fait, a dit l'archevêque de Gênes. Une cérémonie très émouvante. Je me devais d'être là, confie la gorge nouée Barbara.
Nous sommes tous des pères, des mères, des fils, des sœurs. Aujourd'hui, c'est une journée de pleurs. On pleure tous ensemble parce qu'on aurait pu perdre nous-mêmes des proches. Mais en fait, on a tous perdu quelqu'un. Alors on pleure aujourd'hui.
Des applaudissements et des larmes enfin pendant la bénédiction de ces 18 cercueils alignés, dont celui de Samuel, la plus jeune victime du drame. Il avait 8 ans.
Et la cérémonie s'est terminée avec la bénédiction d'un imam venu rendre hommage à deux victimes d'origine albanaise. Nigel Farage fait son retour dans l'arène politique britannique. L'ancien chef du parti europhobe UKIP a rejoint le mouvement pro-Brexit. Leave means leave. En français, partir veut dire partir. Il en a été nommé vice-président et dans un entretien au Daily Telegraph aujourd'hui, il a affirmé sa volonté de s'opposer au plan de sortie proposé par Theresa May, la première ministre britannique. Un plan de sortie de l'Union européenne frauduleux et une trahison lâche, selon Nigel Farage. Angela Merkel reçoit Vladimir Poutine près de Berlin dans la soirée. La chancelière allemande n'avait pas reçu Poutine en Allemagne depuis 5 ans. Les relations entre les deux dirigeants s'étaient en effet détériorées après l'annexion de la Crimée par la Russie. Elles se sont depuis détendues et aujourd'hui l'Ukraine et surtout la Russie figurent au menu de la rencontre d'aujourd'hui. Nathalie Versieux.
La chancellerie a fait part d'un optimisme prudent sur le dossier syrien à la veille de la rencontre. Berlin souhaite un retour rapide vers la Syrie d'une partie des réfugiés accueillis depuis 2015. Un dossier sur lequel rien ne pourra se faire sans l'aval de la Russie. Depuis des mois, les diplomates allemands négocient donc avec Moscou en vue d'obtenir des zones pacifiées en Syrie pour y accueillir une partie des exilés. Une question notamment est décisive pour les candidats candidats au retour la certitude de récupérer leurs biens en Syrie, alors que Bachar al-Assad entend spolier les biens des exilés au profit de fidèles du régime. Sur ce dossier crucial vu d'Allemagne, Angela Merkel espère le soutien de Vladimir Poutine, sans qui le régime d'Assad se serait depuis longtemps écroulé.
Nathalie Versieux. En Égypte, une loi controversée sur la cybercriminalité a été promulguée aujourd'hui. Internet est en ce moment dans le collimateur du régime d'Abdel Fattah al-Sissi. Les ONG de défense des droits de l'homme dénoncent une régression des libertés sur la toile. Cette nouvelle loi permet en effet aux autorités de bloquer, par l'intermédiaire d'un juge, tout site dont le contenu serait une menace pour la sécurité ou l'économie nationale. Plus de 500 sites d'information ou d'associations sont actuellement bloqués en Égypte, selon une organisation de défense des libertés basée au Caire. Au Proche-Orient, les discussions vont bon train pour s'accorder sur une trêve de longue durée entre Israël et le Hamas. Depuis mars, la bande de Gaza est le théâtre de manifestations sanglantes. Après 3 escalades militaires en quelques semaines, l'enclave palestinienne connaîtra-t-elle enfin une accalmie ? Signe d'ouverture, Israël a ouvert en milieu de semaine le principal point de passage de marchandises de l'enclave palestinienne. L'État hébreu a également triplé la superficie de la zone de pêche autorisée. Et sous l'égide de l'Égypte et de l'ONU, les négociations pour l'obtention d'un accord de cessez-le-feu permanent semblent en bonne voie. Les explications de la correspondante de RFI dans la région, Marine Vlaovic.
C'est l'objet d'une intense activité diplomatique depuis des semaines. Et plusieurs dirigeants du Hamas l'affirment, une cessation totale des hostilités entre Israël et le mouvement islamiste est proche. Ces négociations indirectes, parrainées par le voisin égyptien mais aussi l'ONU, visent à mettre en place un accord progressif. Les médias israéliens évoquent un compromis qui comprendrait dans un premier temps un cessez-le-feu global en échange de l'ouverture des points de passage de la bande de Gaza, de l'extension de la zone de pêche et de l'apport d'aide humanitaire et médicale. Avant d'entamer de nouvelles tractations sur le retour des corps des soldats israéliens et des civils retenus par le Hamas et sur les infrastructures portuaires et aéroportuaires de l'enclave palestinienne. Selon le quotidien panarabe Al-Ayat, qui cite une source sécuritaire égyptienne, cet accord pourrait être finalisé en fin de semaine prochaine au Caire en présence de toutes les factions palestiniennes, dont le Fatah. Et c'est bien là tout l'enjeu. Associer le Fatah de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, à cette initiative, alors que toutes les tentatives de réconciliation avec le Hamas ont échoué par le passé.
Donald Trump a dénoncé avec force la suspension par les géants d'Internet de comptes de personnalités de la droite américaine sur les réseaux sociaux. Donald Trump n'en a pas fait mention, mais sa déclaration d'aujourd'hui intervient après l'offensive lancée la semaine dernière par des entreprises du net contre le conspirationniste Alex Jones. Celui-ci a été privé d'accès aux plateformes Facebook et Spotify notamment. Twitter a également restreint pour une semaine le compte de ce commentateur d'extrême droite. Les réseaux sociaux discriminent les voix républicaines et conservatrices. Voilà ce qu'a écrit Donald Trump sur Twitter. Il a promis que son gouvernement ne laisserait pas faire ça. Vous l'avez sans doute remarqué, l'été 2018 est chaud, le plus chaud en France depuis 2003. Du 1er juillet au 15 août, Météo France a enregistré une moyenne des températures de 22 degrés en métropole, soit 2,4 degrés de plus que les températures normales, Sophie Bécherel.
De l'été 2018, on retiendra qu'il était facile d'entrer dans la Manche pour se baigner, même pour les plus frileux. Une poussée de fièvre du thermomètre a en effet été enregistrée dans le nord du pays, Normandie, Hauts-de-France et Champagne-Ardenne. Des records absolus ont été pointés, plus de 37,6 à Lille, 36,7 à Laon en juillet. La France semble au diapason de la planète puisque selon la NASA, juillet 2018 est le troisième plus chaud depuis 1880. La température moyenne du globe est de 0,77 degrés au-dessus de la référence. Le relevé des températures et la science sont certes deux choses distinctes. Il n'empêche que ces phénomènes extrêmes dénotent une tendance au réchauffement qui ne faiblit pas. Si certaines régions ont connu comme nous un début d'été caniculaire, la Californie, l'Europe du Nord, le Maghreb, l'Arctique, lui, est sous les moyennes saisonnières. Pourtant, la banquise continue de se rétracter selon les images satellites. Après un hiver anormalement chaud, le passage du nord-est, c'est-à-dire côté sibérien, est libre de glace depuis des mois.
Et tout de suite, la météo, justement. Les températures sont estivales, 28 degrés dans le sud-est, 21 degrés à Paris et 25 à Bordeaux. C'est la fin de ce journal. Cette édition a été réalisée avec Caroline Beneteau, à la technique Kevin Boisseau.